Bonsoir à tous, tous nos voeux de la part de l'Espace Mendès France. Nous continuons une nouvelle année 2008 avec nos conférenciers aussi en partenariat avec le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale. Nous remercions toujours Claudio Galderisi, le directeur, d'être ici présent et d'organiser ces conférences. Je vais être brève. Je voulais remercier Monsieur Chapelot d'être avec nous ce soir et au public étudiant d'être là. Je sais que vous avez aussi travaillé aujourd'hui. Vous êtes encore là pour les conférences ce soir. C'est vraiment très, très sympathique de votre part. Donc, je vais passer la parole et le micro. Il parlera dans le micro à Luc Bourgeois, qui est maître de conférence au CESM, et avant à Claudio Galderisi. Excusez-moi.
Non, c'était juste seulement pour remercier Jean Chapelot, c'est Luc Bourgeois qui le présente avec beaucoup plus de compétences que moi. Mais en fait, c'est pour le remercier d'avoir accepté notre invitation, je dis notre, celle de l'Espace Mendès France d'Anne Bonnefoy et du CSCM, bien évidemment. Il connaît très très bien la région, n'est-ce pas? Il a beaucoup travaillé sur aussi l'art rural dans les régions. Et puis le sujet, c'est un sujet sur lequel il a écrit de nombreux travaux dont Luc va nous parler. Je crois qu'il s'inscrit parfaitement dans l'atelier interdisciplinaire et dans la journée d'aujourd'hui, du lundi. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui sont ici présents, qui étaient présents aujourd'hui à l'atelier. Et dans la prolongation de nos trois conférences, cette conférence est, je dirais, le point d'orgue de cette journée. À toi, Luc.
Merci beaucoup. Comme Jean Chapelot a un curriculum vitae qui est très très long, je voudrais lui laisser un peu de temps pour sa conférence. Donc je vais essayer d'être bref. Donc comme le soulignait Claudio Galderisi, Jean Chapelot va nous parler aujourd'hui d'un travail récent, le travail sur le château de Vincennes. Longue opération malgré tout, hein, puisque si mes informations sont bonnes, elle a commencé en 1992 et le point d'orgue est assez récent avec l'inauguration, la visite qu'on peut faire aujourd'hui du donjon de Vincennes, donc depuis 2007. Mais là, c'est une facette francilienne de Jean Chapelot, qui est directeur de recherche au CNRS et qui enseigne également à l'école des hautes études en sciences sociales. Et il a depuis plus longtemps travaillé sur la région Poitou-Charentes et ses marges, en particulier sur la Saintonge, avec des travaux qui l'ont mené à s'intéresser d'abord à la céramique saintongeaise au Moyen-Âge et à l'époque moderne, et puis de là au cours de la Charente, au problème de la batellerie, sur lequel il a publié en collaboration un certain nombre de travaux plus récemment, sur les agglomérations qui bordent ce fleuve, et puis en descendant ce fleuve, on arrive à l'Atlantique, ce qui l'a emmené jusqu'en Nouvelle-France, hein, puisqu'il a travaillé pendant un certain nombre d'années aussi sur le mobilier saintongeais qu'on retrouvait de l'autre côté de l'Atlantique au Canada, hein, ce qui effectivement était une façon d'aller jusqu'au bout dans cette recherche sur la céramique. Donc je lui laisse la parole sans plus attendre.
Je vous remercie de cette invitation qui me donne l'occasion de venir une fois de plus dans Poitiers où j'ai eu l'occasion de venir souvent à l'invitation de Robert Favreau au Centre d'études supérieures des civilisations médiévales il y a quelques années. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de la fouille et de l'étude du château de Vincennes qui, comme vient de le dire Luc Bourgeois, est une opération ancienne, enfin relativement, puisque j'ai commencé en 1992. Et c'est une opération assez complexe et assez lourde. Donc vous avez une bibliographie qui vous donnera une idée des données essentielles à partir desquelles j'ai construit cette présentation aujourd'hui. Donc cette diapositive vous montre le château de Vincennes et elle me servira d'introduction. Vous avez en haut à gauche une reconstitution de Paris vers 1400. Donc vous voyez l'enceinte de la ville de Paris, ici, le palais de la cité. Et là, l'enceinte du bois de Vincennes avec le château qui est ici. Les hauteurs de Montreuil, qui limitent la terrasse sur laquelle se trouve le site de Vincennes. Ici, le donjon, le châtelet du donjon avec le cabinet de travail du roi dont je reparlerai tout à l'heure, le donjon proprement dit, et à cet étage, le deuxième niveau, le second niveau du deuxième logis du roi, qui avait deux logis dont je reparlerai. Et ici, l'enceinte. Donc le donjon de Vincennes a été construit entre 1361 et 1370, avec son enceinte, et l'enceinte du château, qui est là, avec ses adjonctions, qui ne nous intéressent pas aujourd'hui du XVIIe, mais l'enceinte qui fait 1100 mètres de développement, c'est-à-dire pratiquement à 100 mètres près la dimension de l'enceinte intérieure de la cité de Carcassonne, ou la dimension d'une cité épiscopale comme Grenoble, a été construit entre 1372 et 1380, ce qui est un tour de force. Alors, comment étudier un tel monument ? À l'origine, je savais qu'il allait y avoir un programme de mise en valeur du château de Vincennes, qui avait été décidé par les deux ministres affectataires du château, la Défense et la Culture. J'ai souligné dans une lettre qu'un programme de mise en valeur de ce château, de restauration, allait impliquer des atteintes sur le sous-sol et aussi une restauration qui allait permettre de connaître les entrailles de l'édifice. Et j'ai donc insisté dans cette lettre sur le fait qu'il fallait suivre cette restauration de très près. Et en 1992, les deux ministères ont mis en place une équipe pour laquelle j'avais été recruté au CNRS comme directeur de recherche un peu avant. Et nous sommes logés au château de Vincennes, financés par le ministère de la Culture et le ministère de la Défense. Et nous sommes sans doute une des rares équipes qui est logée sur place, qui travaille sur place, dans un monument qu'il étudie à l'échelle européenne depuis 12 ans. Alors, pour étudier un tel monument d'emblée, je savais qu'il fallait dépouiller les sources écrites, qu'il fallait faire des fouilles et qu'il fallait restaurer. Il est extrêmement rare que l'on puisse, et je le montrerai tout à l'heure, faire ces trois choses en même temps, en l'espace de quelques années, sur un édifice de l'importance de Vincennes. Il faut bien voir que tout le monde est d'accord pour considérer qu'à Vincennes, il y a un élément qui est fondamental, qui doit être connu par la fouille, c'est le manoir, c'est-à-dire la première résidence des Capétiens, qui a été créée à la fin du XIIe siècle, dans cet angle, et l'enceinte du château au XIVe siècle est venue autour du manoir capétien que je vais vous présenter maintenant. Ce manoir capétien, il n'en reste rien en élévation. Tous les éléments visibles actuellement à Vincennes, sauf ceux qu'on a mis au jour lors de la fouille du manoir et qu'on a conservé in situ, sont du XIVe siècle, ou postérieur au XIVe siècle. Il n'y a rien qui évoque en surface l'histoire de ce monument. Alors voici ce que nous avons... Enfin, c'est une fouille. Cette fouille-là a été une fouille programmée, hein, qui a été décidée par le ministère de la Culture et qui nous a conduit à étudier à peu près un tiers du site du manoir que je connaissais, voyez ici en bleu, par des plans du XVIIe siècle faits par Levaux, l'architecte de Louis XIV, qui a fait le plan de cet édifice avant de le détruire pour remanier le château de Vincennes pour Louis XIV. Donc nous avons fouillé cette zone, c'est-à-dire une partie de l'aile nord et une partie de l'aile ouest où se trouvait la grande salle. Vous voyez l'emplacement sur le plan de Levaux en 1654 du manoir tel que Levaux l'a vu avant qu'il ne détruise pratiquement l'essentiel en créant l'allée centrale que vous avez sur le plan actuel du château de Vincennes. Voici une vue de la fouille. Donc c'est une fouille qui est relativement banale. Sinon, elle est exceptionnelle par la nature du site. Un manoir royal qui est la principale résidence des Capétiens au XIIIe, XIVe siècle après le palais de la cité. C'est le lieu que fréquentent le plus Saint-Louis, Philippe le Bel et Philippe VI après le palais de la cité. C'est ça qui fait l'intérêt exceptionnel du monument. Mais sinon, c'est un manoir banal que nous avons étudié en fouille, dont il apparaît qu'il n'était même pas sur une motte, il est au niveau du sol, il n'était pas protégé par un fossé, et il avait autour de lui une enceinte de 1,20 m d'épaisseur, c'est-à-dire qu'il était indéfendable, ce n'est pas un manoir fortifié réel. Donc ce manoir, nous l'avons d'abord étudié en fouille programmée, puis ensuite, nous avons eu la possibilité, par différentes fouilles préventives récentes, d'en étudier les limites. Donc ça, c'est une fouille préventive que vous avez ici en orange, qui est une réfection de tous les réseaux de circulation à l'intérieur du château, tous les fluides, c'est-à-dire aussi bien la fibre optique que le téléphone, le gaz, l'électricité, les eaux usées, les eaux propres, etc. Donc pour faire cela, on a creusé une tranchée de 200 mètres de long, 6 mètres de large et 4 mètres de profondeur que vous avez ici, pour mettre en place les éléments préfabriqués en béton d'un égout, donc qui descendait très, très profond. Cette tranchée, en fait, coupait l'aile ouest du manoir. Et à partir de cette tranchée, un certain nombre de tranchées secondaires moins importantes, d'1,50 m de profondeur et 1,50 m de large, desservent tous les bâtiments. L'intérêt de cette tranchée, c'est qu'elle m'a permis d'avoir la certitude qu'autour du manoir capétien qui est ici, de là jusque là, il n'y avait pas d'enceinte ni de fortification. Ce qui est extrêmement important parce que ça me donne une vision assez éloignée du manoir. Donc vous avez ici cette tranchée photographiée en cours de fouille en 2004 avec ici le donjon tel qu'il était à cette époque, vous allez le revoir après, entièrement échafaudé, avec la partie supérieure couverte d'un bardage métallique qui nous a permis de faire le travail architectural que vous verrez tout à l'heure. Donc cette fouille de mémoire a été en quelque sorte une fouille archéologique très, très banale, si ce n'est le site. Je vais passer assez vite. Donc nous savons maintenant que ce manoir est un manoir qui s'est constitué progressivement pour arriver à un quadrilatère d'environ 70 mètres de côté au milieu des 14e siècle. Il s'est constitué progressivement à partir de bâtiments, nous en avons trouvé quelques-uns à l'ouest, qui progressivement se sont agglomérés de manière à former cette aile ouest et une aile sud que je n'ai pas fouillée, qu'on a laissée volontairement en réserve pour l'avenir. Et avant que la cour ne soit fermée par ce mur qui est là, et que des bâtiments viennent contre ces murs de clôture dans le cours du XIVe siècle, mais qui sont des bâtiments des communs. Les deux ailes résidentielles du manoir capétien au XIVe siècle, c'est l'aile ouest avec la grande salle au premier étage, et cette aile ici. Ces ailes-ci sont des ailes de communs. Vous avez donc le manoir dans le château tel qu'il était vers 1400, à l'époque où la Sainte-Chapelle était pratiquement en fin de chantier et le donjon achevé depuis trois décennies. Alors dans cette fouille, nous avons trouvé, le hasard fait que nous avons trouvé un certain nombre de choses en dehors de la structure même du manoir qui sont tout à fait intéressantes. C'est la certitude de l'archéologie. Nous avons trouvé notamment beaucoup de carrelages, mais qui sont des carrelages tout à fait ordinaires, par leurs motifs que vous avez ici, ou par leur disposition en panneaux, avec les carreaux posés en diagonale. Vous avez ici une vue. Bon, c'est un carrelage qui n'est pas différent de celui qui a été trouvé il y a quelques années dans la fouille de la cour carrée du Louvre ou dans d'autres édifices royaux ou autres de l'Île-de-France. L'autre élément un peu particulier du manoir, c'est une étude très poussée qui a été faite sur les restes osseux par Benoît Clavel, qui est actuellement à l'INRAP, qui a travaillé avec moi quand j'ai commencé la fouille. Les fouilleurs étaient des étudiants qui faisaient leur service national à Vincennes. Et donc Benoît Clavel a fait son service national à Vincennes à ce titre, et il a étudié les restes osseux. Et donc nous avons eu la possibilité de tamiser systématiquement, c'est-à-dire que nous avons tamisé tous les sédiments. Et nous avons identifié de cette manière des dizaines de milliers de restes animaux, et notamment nous avons pu mettre en évidence la consommation de poissons qu'il est très difficile de mettre d'habitude en évidence, qui sont notamment les raies, poissons à squelette cartilagineux dont on ne peut déterminer la présence que par les écailles. Une des écailles de raies, ça fait 2 à 3 mm de diamètre. Donc il faut un tamisage systématique pour démontrer la consommation de raies. Et nous avons montré qu'à Vincennes, ils consommaient des raies immatures, qui sont meilleures, qui font 35 cm de diamètre. On met en évidence aussi la présence de dauphins, de toute une série de poissons de mer et de rivière. Et là, vous avez la représentation schématique de toutes les espèces qui ont été mises en évidence à Vincennes. Mais le grand intérêt de la fouille de Vincennes mis en évidence par Clavel, c'est surtout l'importance de la consommation de petits passereaux, de corvidés, consommation alimentaire, de poissons d'eau douce et de poissons de rivière, et notamment, essentiellement pour le poisson de mer, des poissons frais. Alors voilà pour ce qui est de la fouille du manoir, qui encore une fois est une fouille banale. Elle n'est pas banale par le site concerné, elle n'est pas banale par la trouvaille, parce qu'on a eu les moyens de le faire, l'étude assez poussée des restes osseux, mais pour le reste, c'est une fouille assez classique. J'en viens maintenant à l'étude du château, et c'est-à-dire essentiellement du donjon, puisque l'essentiel de notre investissement était lié à la restauration, et donc au donjon, puisque actuellement, nous commençons la semaine dernière, la restauration de la Sainte-Chapelle. Et la restauration de l'enceinte n'est pas prévue dans l'immédiat. Donc nous l'avons étudié, mais pas d'une manière aussi sophistiquée que le donjon. Alors quand on étudie un édifice comme le donjon de Vincennes, il est clair que là, des archives, les archives de la monarchie française, les archives comptables notamment, ont été détruites par l'incendie de la Chambre des comptes en octobre 1737. Donc la monarchie française est une des monarchies d'Europe occidentale les plus dépourvues d'archives comptables. Mais c'est en même temps un double sens, parce que beaucoup de ces archives ont survécu grâce au prélèvement des érudits du XVIIe, XVIIIe siècle qui avaient découpé les manuscrits. Et donc nous nous trouvons avec des collections particulières, les pièces originales, la série des quittances, etc., à l'ABN, qui posent des problèmes archivistiques très particuliers que les médiévistes connaissent bien, mais qui sont assez compliqués et sur lesquels je reviendrai. Donc on a à la fois peu d'archives, mais on en a en fait pas mal, et puis surtout Le fait que Vincennes soit une résidence royale génère des types de documents que nous n'avons pas d'habitude à notre disposition quand on étudie un château banal, par exemple les actes royaux. Et donc je vous montrerai tout à l'heure ce que l'on peut tirer des actes royaux dans l'étude d'une résidence comme le donjon de Vincennes. Alors bien sûr aussi, il ne faut pas oublier qu'un édifice comme Vincennes est un édifice énorme. C'est-à-dire que l'enceinte fait 1100 mètres de développement. Elle était défendue par 9 tours de 40 mètres de hauteur, dont une subsiste. C'est-à-dire qu'en elle-même, l'enceinte est déjà énorme. La Sainte-Chapelle est un édifice de grande taille, équivalent d'une petite cathédrale, fin 14e, début 15e. Quant au donjon, il fait 50 mètres de hauteur et en développement, il fait 100 mètres de circonférence, c'est-à-dire un demi-hectare de surface. C'est donc aussi un édifice énorme. Donc, l'étude du monument en lui-même pose déjà des problèmes de volume du monument. Autre problème qu'il pose, c'est que ce monument a été dirigé par les meilleurs maîtres d'œuvre et décoré par les meilleurs sculpteurs de leur époque. Et l'importance de l'histoire de l'art dans Vincennes est fondamentale. J'y reviendrai tout à l'heure. Vincennes est actuellement le seul témoin qui subsiste de la sculpture des maîtres d'œuvre, des tailleurs de pierre Paris, enfin des sculpteurs de royaux, entre 1360 et 1405, 1410, qui subsistent. Or, c'est une époque capitale. C'est l'époque de la genèse du gothique international et de sa diffusion. Enfin, il est clair que ce décor, et j'y reviendrai tout à l'heure, a une fonction symbolique fondamentale, et en particulier qu'il est l'expression de la foi de Charles V, et qu'il faut le décrypter dans cette optique. En conséquence, pour étudier un tel monument, il faut à la fois faire une étude d'archives assez particulière, faire des fouilles, mais il faut bien comprendre que l'étude d'archives sur un monument comme celui-ci, quand on est habitué à lire des archives, quand on connaît l'archivistique, c'est une aventure individuelle ou quasiment individuelle qui m'a pris quelques années et qui est reproductible, sauf accident majeur. Les archives que j'ai étudiées seront toujours à disposition. Faire une fouille dans un édifice de ce genre, c'est déjà plus difficile. Il faut des circonstances. C'est-à-dire qu'il faut que le propriétaire du monument soit d'accord, avoir des crédits, constituer une équipe. Ça prend beaucoup de temps et une fouille est destructrice. Elle ne pourra pas être reproduite dans les zones du manoir que j'ai fouillées. Mais somme toute, on peut arriver en France actuellement, notamment en archéologie préventive, à faire des fouilles de ce type. Au total, sur les 15 fouilles que j'ai faites à Vincennes, pratiquement 14 étaient des fouilles préventives, notamment la grande tranchée que je viens de vous montrer. Donc on peut arriver à les faire. Par contre, étudier un édifice grâce à la restauration est rarissime. Le donjon de Vincennes date de 6 siècles, il n'a jamais été restauré réellement profondément. Une restauration est destructrice, mais nous avons besoin de la restauration pour accéder au monument. Il faut un échafaudage, il faut de l'argent, il faut faire des carottages, il faut déterminer la nature des calcaires, il faut suivre les travaux qui sont faits par les entreprises, et ça, il se trouve que grâce à la restauration qui a été faite et par le fait que nous étions présents en tant qu'équipe, nous avons pu utiliser ces données, mais une opération hors de ce genre organisée 10 ans plus tard ou 10 ans plus tôt n'aurait pas été suivie et exploitée. C'est un problème classique de la restauration des monuments historiques. Alors, je vais vous montrer rapidement, pour ceux d'entre vous qui sont historiens, le problème des sources écrites. L'intérêt des sources écrites, dans le cas d'un édifice comme Vincennes, c'est qu'elles nous permettent de replacer le donjon dans sa spécificité et dans son espace historique. Vincennes est une résidence royale. C'est même la seule résidence d'un souverain du Moyen Âge qui subsiste en France. La seule autre résidence d'un souverain médiéval qui subsiste, c'est le Palais des Papes d'Avignon. Toutes les autres résidences des souverains capétiens sont ou détruites à Melun ou remplacées par des châteaux postérieurs à Fontainebleau ou à Compiègne. À Vincennes, nous avons une résidence royale construite en 10 ans, le donjon, sous l'œil de Jean le Bon et surtout de Charles V, qui suivait la construction depuis son manoir, ce qui veut dire que la disposition des lieux, le décor, ont été conçus sous l'œil du souverain et correspondent à l'idée qu'il voulait donner de sa personne, de sa dynastie et au cadre de travail qu'il souhaitait avoir. Donc nous avons à décrypter cela. Alors, vous avez ici deux cartes qui vous montrent rapidement l'intégralité des résidences capétiennes d'Île-de-France. Et je voudrais simplement montrer, pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure sur la spécificité des documents royaux, un problème. Vincennes n'existe pas comme résidence royale de toute antiquité. Vincennes est créé à la fin du règne de Louis VII. Le premier acte royal passé à Vincennes est de 1178. Et je pense, pour une série de raisons, que ce manoir de chasse a été créé très peu de temps auparavant. Alors, nous pouvons voir cela à partir des actes signés par les souverains Bon, j'en ai pris quelques-uns, pas au hasard, mais un peu partout. Vous voyez, Loris, qui est dans la forêt d'Orléans, Saint-Germain-en-Laye, à l'ouest de Paris, Fontainebleau, au sud-est de Paris, Choisy-Aubac, dans l'Aisne, qui est une résidence carolingienne ancienne, importante, Bois-Commun, dans la forêt d'Orléans, et Vincennes. Vous voyez que pratiquement, il n'y a pas d'acte passé à Vincennes par les premiers Capétiens, notamment par Louis VI, un seul par Louis VII, trois par Philippe Auguste et trois par Louis VIII. Louis VIII a régné tellement peu de temps qu'il n'a pas eu le temps de passer beaucoup d'actes. Et vous voyez qu'en fait, c'est seulement à l'époque de Saint-Louis que Vincennes devient réellement une résidence royale. Alors le problème du « environ », c'est que les actes des souverains antérieurs sont édités, les actes de Saint-Louis ne sont pas édités. Ce qui veut dire que connaître le nombre d'actes passés par à Vincennes par Saint-Louis est actuellement un peu aléatoire. Mais si, à partir de ces actes, on regarde les lieux que fréquente Saint-Louis pendant son règne, vous voyez que le principal lieu, c'est le palais de la Cité, et le second lieu, c'est Vincennes. Vincennes devient une résidence royale importante sous Saint-Louis. Et ça, les sources écrites sont les seules à permettre de le dire facilement et rapidement. Saint-Louis va devenir le souvenir de Saint-Louis va être attaché à Vincennes, et Vincennes, à cause de Saint-Louis, va devenir un lieu de légitimité, notamment avec la vie de Saint-Louis faite par Joinville, au début, écrite par Joinville au début du XIVe siècle. Mais les textes, les sources écrites le montrent très bien. Alors, autre élément qui apparaît très bien dans les sources écrites, les qualificatifs de Vincennes. J'ai relevé tous les qualificatifs que j'ai trouvés dans les documents antérieurs à 1353, c'est-à-dire en fait bien antérieurs au donjon. Et vous voyez qu'en fait, pour l'essentiel, Vincennes est qualifié de domus, en général ou toujours au pluriel. Hein. Alors il y a une ambiguïté sur l'expression domus, parce que dans les chartes de cette époque, on désigne de cette manière aussi bien la résidence que la partie de la résidence qui est occupée par le souverain, c'est-à-dire le logis. Donc bon, il y a une certaine ambiguïté. On arrête de qualifier Vincennes de maison au milieu du XIVe siècle. L'utilisation du terme manoir est à peu près contemporain du terme domus. Par contre, hôtel et palais est utilisé seulement deux fois à propos de Vincennes dans les textes du Moyen-Âge. Palais est très vite réservé au palais de la Cité. Ce n'est pas une expression qui est appliquée à d'autres résidences. Mais Vincennes est qualifié d'hôtel. Vous voyez qu'il n'y a aucune référence à une fortification dans les sources. Et quand on regarde les dates de lieu des actes passés par Charles V à Vincennes, une date de lieu, c'est l'indication à la fin d'un acte, la mention orteneur de l'acte, qui indique qui a commandé l'acte et qui l'a rédigé, quel est le notaire secrétaire qui l'a rédigé. On voit très bien que Vincennes est un lieu non fortifié jusqu'en 1369, 1370, 1372. Et brusquement, dans les actes royaux, vous avez ici trois chartes, en 70-71, qui indiquent, en date de lieu, passer dans notre tour du bois de Vincennes. Les notaires secrétaires de la chancellerie ont été tellement frappés par ce donjon que brusquement, ils ont modifié les mentions en teneur. Mais ils les ont modifiées très peu de temps. Le donjon finit en 69. Et après, ils reviennent au terme classique, soit à Vincennes, soit dans le château de Vincennes. Vous voyez que l'expression « au château de Vincennes » en hors teneur n'apparaît qu'en 72-73 et surtout après, quand l'enceinte est construite. Ce qui veut dire que même un acte de chancellerie peut avoir, même la mention en teneur d'un acte de chancellerie, a une signification architecturale et qu'elle est parfaitement corrélée à ce que nous disent l'étude du monument. Alors il faut voir aussi qu'un château comme Vincennes, c'est un ensemble. À partir de la fin du XIIIe, autour de l'enceinte du château, il y a toute une série de résidences secondaires occupées par la haute aristocratie. Le chancelier réside ici à la conciergerie qui défend l'entrée. Les Bourbons résident dans le château, ici. Mahaut d'Artois réside là. Son neveu, Robert d'Artois, réside ici. Ils sont diamétralement opposés. Et il y a comme ça toute une série de résidences secondaires. Et à partir de ce moment-là, dans les sources écrites, on appelle le bois de Vincennes, l'expression apparaît à cette époque, le bois de Vincennes, c'est tout ça. C'est l'ensemble des résidences royales du bois et des résidences de la haute aristocratie. Les actes de chancellerie le montrent très très bien. Alors, bon, je vais passer rapidement sur ça, mais bon, c'est un petit truc très intéressant qui vous montre ce que c'est qu'une mention hors teneur. Vous voyez, le 9 août 1383, Verberie, l'acte avec la mention hors teneur par le roi à la relation de Monseigneur le duc de Bourgogne est passé. J'ai vérifié dans l'itinéraire royal, Charles VI était le matin seulement à Verberie. Et cette mention hors teneur signifie qu'en fait, c'est le duc de Bourgogne qui a passé l'acte. Et il demande qu'on refasse sa résidence du donjon de Vincennes. Vous voyez qu'un peu après, Le 21 décembre, un nouvel acte royal est passé par le duc de Bourgogne pour refaire sa résidence. Et nous avons une quittance pour ces travaux du 22 décembre. Vous voyez, on arrive à entrer par la mention orteneur des actes dans la quotidienneté de l'aménagement. C'est l'époque où Philippe le Hardi est le tuteur de son neveu. Et donc il se fait aménager une résidence dans l'enceinte du donjon. Et les mentions orteneur le montrent. Et je suis en mesure de dire que c'est le duc lui-même qui, au nom du roi, commande ses travaux. Alors je passerai sur la codicologie, mais Madame Andro-Schmidt et moi dirigeons la thèse d'un étudiant qui travaille sur les comptes de construction de Jean de Berry et que j'ai fortement orienté vers la codicologie parce qu'à partir du moment où nous avons des sources comptables dans les archives de la Chambre des comptes qui subsistent à la BN, qui sont découpées, seule la codicologie, c'est-à-dire l'étude matérielle du compte, ses réglures avec un stylet ou à la mine de plomb, la manière dont il est justifié, nous permettent de reconstituer les comptabilités, de lier les pages déchirées les unes avec les autres et d'identifier dans la mesure du possible les comptes et les fragments de comptes que nous ne connaissons que par des fragments. Et ceci est fondamental pour les bâtiments royaux. C'est un problème qui n'avait jamais été étudié jusqu'à maintenant, mais qui est absolument fondamental. Dernier point qui est important pour Vincennes, le coût du monument. On se préoccupe rarement du coût des châteaux parce qu'on a peu de comptes. Dans le cas de Vincennes, on n'a pas de compte entier, mais j'ai suffisamment de mandements royaux donnant des paiements pour faire des évaluations. Vous avez ici les évaluations, enfin ça c'est pas les évaluations, j'ai le compte. Enfin j'ai des notes du 17e sur le compte, qui vous donnent ici le coût de la construction du Louvre par Charles V à la même époque que le donjon de Vincennes par semaine. Vous voyez ici 347 livres tournois par semaine, et puis ensuite le chantier décline. À Vincennes, le roi dépense entre 500 et 1000 livres par semaine, pendant la durée du donjon et pendant la durée de l'enceinte, c'est-à-dire pendant 20 ans. C'est-à-dire que, d'après mes évaluations, il a consacré plusieurs pourcents du budget dépenses de la monarchie de cette époque à la construction du château de Vincennes. Ce qui veut dire que dans une période, notamment en 1369, construction du donjon, de très grandes difficultés financières, le roi a ordonné, avec un système très particulier, très spécifique, de collecte financière et de gestion de cet argent, il a gérer un énorme chantier qui lui a coûté une fortune. J'évalue entre 80 000 et 120 000 livres de tournois par an le coût du chantier de Vincennes. C'est le coût d'une campagne de guerre, 100 000 livres à cette époque. C'est donc un coût considérable et qui est fondamental parce qu'il permet de comprendre le monument, il permet de comprendre le rôle que le roi voulait lui donner. Alors voilà maintenant un autre point qui sont les fouilles du donjon. C'est-à-dire la manière dont l'étude architecturale confirme, dans une certaine mesure, ce que les sources écrites nous indiquent. Alors, nous avons eu la possibilité, avec l'importance des travaux à Vincennes, et la présence de nombreux spells mécaniques, j'ai systématiquement eu la possibilité de vérifier les niveaux d'apparition du calcaire de Saint-Ouen, qui est le niveau sur lequel est fondé le donjon. Il est extrêmement rare qu'on puisse faire cela sur un chantier. Donc nous avons ici la coupe géologique du métro, pour ceux d'entre vous qui connaissent Vincennes. C'est la coupe géologique de la station de Château de Vincennes, qui est juste devant le château, que j'ai retrouvé dans les archives de la RATP. Le donjon est fondé sur ce niveau, qui est le calcaire de Saint-Ouen. Et vous voyez très bien l'irrégularité du calcaire de Saint-Ouen, qui a subi de fortes érosions glaciaires. Et donc, en conséquence, le donjon a été fondé ici sur le calcaire de Saint-Ouen, sur le toit du calcaire de Saint-Ouen. Mais ce toit est un toit marneux, incertain. Quand Raymond du Temple a lancé l'enceinte, il a décaissé systématiquement le calcaire de Saint-Ouen pour pallier les irrégularités dans le niveau du calcaire de Saint-Ouen, enlever les marnes du sommet et se fonder dans un niveau dur. Alors, je peux vous dire que les entreprises dont j'ai suivi les travaux, qui sont descendus parfois à 8 mètres ou 10 mètres de profondeur pour faire des réservoirs d'eau, et qui défonçaient le toit du calcaire de Saint-Ouen, devaient le faire au marteau-piqueur. Ce qui veut dire que pour faire l'intégralité des 2,7 hectares des fossés et les fondations du mur de contre-escarpe et d'escarpe, il a fallu décaisser sur 7 mètres de profondeur le calcaire de Saint-Ouen de mauvaise qualité. Ce qui est un travail colossal que Raymond du Temple a ordonné parce qu'il avait constaté, par les puits notamment, que les fondations du donjon, qui est fondé à peu près 7 mètres plus haut que l'enceinte, n'étaient pas fiables. Et il a décaissé. Ce qui était un choix très très coûteux et très complexe. Alors voici par exemple un élément qui vérifie les textes. J'ai fouillé en 2006 la cour du donjon. Je savais par les sources écrites que le donjon avait été commencé pour les fondations à l'époque de Philippe VI entre 1336 et 1340 et arrêté et repris par Jean le Bon en 1360. Voilà la fondation, la première fondation que nous avons trouvée. Vous voyez qu'il n'y a pas de massif en saillie. Voici la deuxième fondation qui correspond au chantier de 1361. Quand le chantier a repris, le plan initial de 1336 a été abandonné et on a agrandi le donjon. C'est-à-dire que le plan actuel du donjon, un carré avec quatre tours circulaires aux angles, n'est pas le plan de 1336, c'est le plan de 1361. Et le deuxième système de fondation que vous avez là avec les carottages est un système avec un bahut saillant à l'extérieur. Et enfin, nous avons une troisième fondation qui est la tour des latrines, que vous allez voir tout à l'heure, qui est plaquée contre la tourelle d'angle du donjon. Vous voyez que la tour des latrines n'est pas d'origine. Elle était plaquée contre le donjon, j'y reviendrai tout à l'heure, alors que le donjon était déjà construit au deuxième étage. Et ça se voit très bien quand on examine la fondation. Ce sont deux fondations qui ne sont pas liées. Elles sont plaquées l'une contre l'autre. Donc nous avons une construction avec trois étapes de fondation. Un premier plan abandonné, un deuxième plan en 1361 et la tour des latrines qui est rajoutée. Un autre élément intéressant dans la fouille, ce sont les réseaux d'eau. Nous avons trouvé systématiquement des réseaux d'eau que vous avez ici sur le manoir, vous avez les deux ailes du manoir, l'aile nord, l'aile ouest. Vous avez ici en rouge les réseaux d'eau en tuyaux de terre cuite dans du mortier de tuileau et en bleu les tuyaux de plomb comme ceux que vous avez là. À Vincennes, on passe des tuyaux de terre cuite dans du mortier de tuileau qui sont caractéristiques du XIIIe, début XIVe à ce système à l'époque de Charles V. Les réseaux d'eau, nous les avons trouvés un peu partout dans tout le château et ce sont des éléments extrêmement intéressants parce qu'ils nous permettent de suivre la chronologie du monument et d'interpréter une partie de son histoire. Vincennes était approvisionnée en eau par des captages sur les hauteurs de Montreuil, que je vous ai montré tout à l'heure, à 3 km, avec un réseau en Y qui remonte, d'après les sources écrites, au règne de Saint-Louis au milieu du XIIIe siècle. L'eau arrivait ici, était rejetée dans les fossés par cet égout que vous avez là, par ce déversoir, et quand il y avait 2 mètres d'eau dans les fossés, l'eau sortait par un déversoir qui est ici, par un égout, était rejetée dans un étang qui remonte à l'époque de Saint-Louis, dans lequel on élevait du poisson. Et de là, l'eau allait dans la Seine à Bercy. C'est-à-dire qu'on a un réseau d'eau du milieu du XIIIe siècle, entretenu jusqu'à la fin du Moyen-Âge et qui continuait à alimenter le château au début du XIXe siècle, après de moult réflexions, qui fait 8 km de longueur, 3 km en amont du château, 5 km en aval, et qui débitait autant d'eau que l'ensemble des sources approvisionnant Paris à la même époque, entre 150 et 300 mètres cubes jour au XVIIe siècle. Autant que toutes les sources approvisionnant les fontaines de la rive droite de Paris, qui étaient au Moyen-Âge les seules à avoir des fontaines. Donc c'est un réseau d'eau énorme, hein, qui approvisionnait des bains, dont je sais qu'ils existent par les sources écrites, la cuisine et une fontaine que nous avons trouvée en fouille. Alors, chose intéressante, nous avons trouvé dans la fouille de la cour du donjon, le donjon est ici, nous avons trouvé ici, contre cette tour, un réseau d'eau que vous avez là, qui a été coupé par la fondation de 1336. Ce qui veut dire qu'au-delà du donjon de ce côté, vous voyez à l'ouest du donjon, il y avait un bâtiment très éloigné du manoir, à 200 mètres du manoir, qui était suffisamment important pour qu'on ait une adduction l'alimentant. Malheureusement, je pense que je ne le trouverai jamais, parce qu'ici nous avons des casemates du XIXe siècle avec des caves, et après les fossés du donjon qui ont cassé le sous-sol archéologique. Mais là, on a un très bel exemple qui me permet de dater le réseau d'eau antérieur aux fondations. Alors, autre exemple assez drôle, je crois que c'est assez peu courant dans les annales de l'archéologie, quand nous avons fouillé dans la cour, nous avons trouvé un très beau dépotoir du XVIIIe siècle, bien daté, et dans ce dépotoir, ce fragment de chapiteau. Enfin, il y en avait deux. Quand on a trouvé le fragment, j'ai tout de suite compris d'où il venait. Il vient de ce chapiteau, qui est le chapiteau de la chambre du roi, au deuxième étage, qu'on a déposé parce qu'il était en mauvais état et qu'on a remplacé par une copie. Vous avez ici une aquarelle qui vous montre la polychromie de ce chapiteau, dont vous voyez que sur l'original, la polychromie est pratiquement détruite, alors que dans ce fragment que j'ai trouvé en fouille, nous avons encore ici la dorure à la feuille dans le quadrilobe et la polychromie qui est conservée. Or, ça me permet, c'est très important, parce que ça me permet de dire que dès le XVIIIe siècle, la surcharge de la colonne était telle que le chapiteau du deuxième étage a éclaté. C'était une époque où le donjon servait de prison, Les gardiens sont entrés dans cette salle, ils ont trouvé les morceaux de chapiteaux, deux beaux morceaux, ils ont ouvert la fenêtre, ils les ont jetés, et je les ai retrouvés au pied de la fenêtre, datés par le dépotoir. Ce qui nous permet de retrouver une polychromie en meilleur état que sur l'original, et en même temps de dater les problèmes du donjon qui ont entraîné sa fermeture en 1995 et sa restauration, c'est-à-dire son instabilité. Nous avons trouvé aussi en fouille dans la cour du donjon un grand nombre de carreaux de faïence. Alors, c'est intéressant pour Poitiers, puisqu'ici, à Poitiers, en 1383, sont arrivés des ouvriers espagnols qui sont ensuite allés travailler à Melun-sur-Yèvre et à Bourges, et qui ont travaillé aussi pour Philippe le Hardy à Poitiers, qu'on suit par les comptes de construction. Donc, nous avons trouvé à Vincennes, malheureusement toujours en remblai, mais dans la fouille du manoir, dans les latrines d'une des tours et dans la cour du donjon, soit des carreaux en terre rouge carrée, très ordinaires quant à leur dimension et à leurs pattes, qui sont peints en vert et brun, mais qui sont de la faïence. Hein. Ces carreaux ont été étudiés par le laboratoire de recherche du musée du Louvre, mais qui sont des carreaux donc de forme classique. Par contre, nous avons trouvé ces formes que vous avez ici, qui ne viennent que de la cour du donjon et qui comprennent ce qu'on appelle des éliges, c'est-à-dire ces étoiles, qui sont caractéristiques de la poterie d'Afrique du Nord, notamment de la poterie murale du Maroc. Et là, je ne sais pas. Ce sont des formes qu'on n'a jamais trouvées en fouille, sauf au quartier Sainte-Barbe à Bordeaux, dans une fouille qui a été publiée il y a quelques années, fin 13e, début 14e, où nous sommes sûrs qu'il s'agit d'une production par des artisans venant d'Afrique du Nord. Nous avons là quelque chose, un apax, que je n'arrive pas à rattacher à une série, mais qui a des couleurs, voyez, en particulier ce vert, qui sont tout à fait exceptionnels dans la production des carreaux de terre cuite du Moyen-Âge occidental. Malheureusement, tout en remblai. Alors, ça veut dire qu'il y avait quelque part autour du donjon un bâtiment de très grande qualité avec ces carreaux qui sont en fait des carreaux muraux. Hein. Vous voyez, ce sont des motifs très compliqués. Au dos, il y a du plâtre. Ce ne sont pas des carreaux de sol, ce sont des carreaux de décor mural. Malheureusement, je ne sais pas de quel bâtiment il s'agit, mais c'est un bâtiment qui peut être lié à l'adduction qui a été coupée par les fondations du donjon, mais qui montre qu'à 150 mètres au sud-ouest du manoir, il y avait un bâtiment de qualité, décoré, avec des carreaux de faïence exceptionnels et avec une adduction d'eau. Alors, venons-en maintenant à l'étude du bâti. Vous avez là une coupe du donjon faite par l'architecte en chef qui montre son enceinte, le cabinet de travail du roi et le donjon. Le donjon est porté par une colonne unique à tous ses niveaux. Il est voûté à tous ses niveaux, sauf à cet étage où il est couvert d'un plancher de bois. Vous avez ici la coupe qui vous montre la structure interne du donjon. Ici, un plan peu lisible. Et là, la tour des latrines qui est plaquée contre l'une des tourelles d'angle, la tourelle nord-ouest. Donc, dans la restauration, nous avons sondé tous les niveaux de sol sur toute la hauteur, démonté intégralement la terrasse, les remblais qui couvraient les voûtins de la terrasse, démonté les voûtins de la terrasse qui dataient de l'Ancien Régime, et démonter une partie des parements qui étaient en mauvais état, ce qui m'a permis d'avoir une idée de la structure du monument. Alors d'abord, quelques idées sur sa fonction. Voici le donjon avant restauration. Voici une miniature célèbre qui est dans le livre d'heures d'Étienne Chevalier au musée Condé à Chantilly, qui vous montre ici cette partie avant que Marie de Médicis, la veuve d'Henri IV, vienne se réfugier ici en 1610. Elle a fait détruire ces bâtiments et couvrir d'ardoises le chemin de ronde. Avant cette date, dans l'angle, se trouvait ici, sur cette gravure d'endroit du cerceau, le logis-bas du roi. Il travaillait là, dans cette pièce. Cette fenêtre éclaire son cabinet de travail. Et il avait ici, en prolongement, trois pièces, une chambre, j'utilise des termes anachroniques, une chambre, une salle à manger et une pièce de réception. Et en retour ici, une chapelle dédiée à Saint-Louis. Il avait donc un appartement bas, complet, en complément de son appartement haut, que vous allez voir ici. Et au-dessus de son cabinet de travail, une horloge. Cette horloge, il l'a fait construire en 1369, un an avant l'horloge du Palais de la Cité, à l'angle du Palais de la Cité, la tour de l'horloge. C'est la première horloge publique de ce genre en France. Et cette cloche est conservée. 714 kilos, c'est une merveille. C'est la plus belle et la plus ancienne cloche du Moyen-Âge qu'on connaisse en France. La plupart ont été fondues. Elle porte une inscription, ici, qui indique bien qu'elle a été faite par Jean Jouvent, un fondeur qu'on connaît par ailleurs. Il a fait notamment les cloches de l'horloge de la cathédrale de Sens, qui subsiste, de 1377, mais qui sont petites. Cette horloge est une des premières horloges. Et c'est une horloge qui a coûté une fortune à cette époque. Robert Favreau a étudié l'horloge de Poitiers, il a montré le coût de cette horloge de Poitiers. Là, nous sommes devant une volonté du roi, et j'ai retrouvé dans un manuscrit de 1374, qui est une traduction du rituel des divins offices de Guillaume Durand par un carme. Il est indiqué en 1374 dans la préface de ce manuscrit traduit sur l'ordre du roi que le roi demandait que cette cloche soit installée pour qu'on sonne les heures canoniales au-dessus de son cabinet de travail dans le Châtelet et à la hauteur de sa chambre. Donc une volonté, si vous voulez, religieuse qui est extrêmement intéressante et qu'on va voir confirmée par d'autres éléments que je vais vous montrer maintenant. Alors voici ce qu'était le logis du roi à Vincennes, cabinet de travail dans le Châtelet, trois pièces ici de réception, la chapelle Saint-Louis, une passerelle, l'horloge qui est ici avec la cloche, une passerelle qui permettait d'accéder au premier étage du donjon où se trouvait la salle du conseil, un escalier dans la tourelle d'angle, escalier qui n'est pas d'origine, qui a été rajouté en cours de chantier. Quand on s'est aperçu que le petit escalier en vis qui est là et qui fait à peine 2 mètres de diamètre et qui est le seul élément qui permet d'aller du rez-de-chaussée à la terrasse, on s'est aperçu que ce petit escalier en vis allait être utilisé par tous les domestiques portant de l'eau, du bois, etc. Donc on a défoncé la voûte de la tourelle qui était construite et on a mis en place cet escalier majestueux qui fait 4 mètres de diamètre avec une magnifique stéréotomie et qui ne dessert que la salle du conseil et la chambre du roi au deuxième étage qui constitue le second appartement du roi mais qui lui est un lieu privé et un coffre-fort, vous allez le voir tout à l'heure. Pourquoi un coffre-fort ? Dans cette chambre du roi se trouvaient quelques objets, notamment dans une des fenêtres, 31 manuscrits, dont 21 ont été identifiés par Léopold de Lisle au début du XXe siècle, en 1907, et sont conservés, notamment le psautier de Saint-Louis, un des plus hauts manuscrits du monde occidental, il était là, le psautier d'Ingeburge, dont il est inutile de dire ce qu'il représente, et qui est au musée Condé à Chantilly, le psautier de Philippe le Bel, uniquement des manuscrits religieux, prestigieux, et uniquement des manuscrits de famille. Ils étaient dans la chambre du roi, dans une fenêtre. Je me suis fait communiquer il y a un an tous ces manuscrits à la BN, sauf le psautier d'Ingeburge qui ne sort pas de Condé. Le psautier de Saint-Louis n'est pas communiqué au public depuis très très longtemps, mais je voulais les voir pour me rendre compte des problèmes de muséographie. Et je dois dire qu'avoir le psautier de Saint-Louis, regarder le bréviaire, je voulais vérifier, je le savais parce que j'ai le facsimilé, mais vérifier dans l'original que le 11 août est bien la fête de la susception de la couronne d'épines dans l'original de Saint-Louis, une fête de première classe, je dois dire que c'est un moment émouvant pour un historien, avoir entre les mains un manuscrit de ce type, qui est un manuscrit extraordinaire. Alors il y avait aussi dans la Sainte-Chapelle cette pièce, qu'on appelle le baptistère de Saint-Louis. Je viens de faire un article sur cet objet. Bon, c'était une pièce majeure de l'art islamique. Il est au musée du Louvre, au département des arts de l'islam. Il est considéré comme une des plus belles pièces de l'art du métal, qui est un art majeur de l'art de l'islam, fait par les mamelouks, à l'époque mamelouks, soit à Damas, soit au Caire, au début du XIVe siècle. Alors les spécialistes d'art islamique ont écrit beaucoup de choses sur cela, mais on ne s'était jamais interrogé sur les circonstances d'arrivée de cet objet à Vincennes. Et j'ai trouvé la solution. Il a été apporté à Vincennes en 1540 à François Ier, qui a reçu à Vincennes les ambassadeurs du Grand Turc, à l'époque où François Ier prenait à revers les Habsbourg, et les ambassadeurs du Grand Turc l'ont apporté des reliques et des manuscrits grecs qui étaient encore à Constantinople et qui sont les premiers manuscrits grecs qui sont entrés dans la bibliothèque royale à Fontainebleau et qui sont maintenant à la BN. François Ier a donné ce baptistère à la Sainte-Chapelle, ainsi que certains manuscrits grecs qui sont entrés à la Révolution avec le baptistère au Louvre, les manuscrits grecs de la Sainte-Chapelle de Vincennes, à la Bibliothèque nationale de France. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut faire que dans un édifice de ce type. Nous avons, avec la chambre de Charles V au deuxième étage du donjon, une chambre de souverain, la seule, les inventaires des manuscrits et des pièces d'orfèvrerie du roi contemporaine de Charles V qui me disent où étaient les meubles, les dressoirs, etc., et l'écrin qui contenait les manuscrits et les objets. Combien y a-t-il de résidences de la haute aristocratie en Europe que l'on conserve, dont on est le mobilier décrit et dont on est les objets, dont on peut dire exactement où ils étaient. Alors nous avons aussi pu utiliser les échafaudages, et systématiquement, nous avons eu l'autorisation d'utiliser les échafaudages après le chantier de restauration, 15 jours de supplément pour toute l'enceinte, de manière à faire le calpinage pierre à pierre de toutes les pierres de l'enceinte du château, déterminer les calcaires et relever les marques lapidaires. Nous avons relevé au total 90 000 blocs de pierre dans les parements extérieurs de l'enceinte et 20 000 dans le parement extérieur du donjon. en identifiant les 12 qualités de calcaire et en ajoutant des carottages. Donc nous savons que ce sont ces carrières qui sont indiquées sur ce plan qui approvisionnaient le monument, et j'ai un système en 3D informatique qui me permet de retrouver soit la qualité du calcaire que vous avez ici sur la tour d'entrée, soit sur les diapositives que vous verrez après, les marques lapidaires. Nous avons aussi fait une étude au distance-mètre extrêmement poussée du monument, parce que je considérais que nous avions affaire à une enceinte, l'enceinte du château, construite en très peu d'années, contrairement à une enceinte urbaine classique qui est construite en décennies et décennies. Celle-ci a été construite entre 1372 et 1779-80. Donc pratiquement même maître d'œuvre, même chantier, mêmes ouvriers. Donc on peut considérer qu'elle a été faite avec un plan préétabli qui a été suivi. Donc nous avons pu déterminer par toute une série d'observations, y compris à l'appel mécanique dans les fondations, que l'enceinte avait été commencée par cette section. Le donjon existait déjà, hein, puisqu'il était achevé en 1369-1370. Ils ont commencé par cette section, ils ont construit l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre, ils ont terminé par cette section. Nous avons fait au distance mètre une étude très précise. Ici, vous voyez, le mur de contrescarpe est en fait le tracé générateur du château. Il mesure dans l'œuvre 1200 pieds du roi exactement, et en largeur 700 pieds. À l'intérieur, ils ont inscrit l'enceinte du château, qui dans l'œuvre, à l'intérieur, mesure exactement 1000 pieds. Ce qui veut dire que les fossés, sur ces côtés, ont comme largeur l'épaisseur des murs de l'enceinte, puisque les 1000 pieds sont dans l'œuvre, et ils sont la résultante de deux rectangles inscrits l'un dans l'autre. Donc c'est un piquetage impeccable. Les angles de l'enceinte sont des angles droits à un dixième de degré près. Et les deux sections de la courtine qui sont là, qui n'étaient pas visibles, hein, puisqu'ils ont commencé dans ce sens et terminé par ce côté, donc il fallait piqueter. À cette époque, il n'y a pas d'instrument optique de piquetage. Il n'y a pas de chaîne d'arpenteur. On travaille avec des piquets et des cordes. Et les deux éléments ici sont alignés parfaitement, rigoureusement. Ce qui veut dire que le piquetage, ce qui n'était pas indispensable, a été parfait. On a pu reconstituer aussi une chose. Il y a une pente naturelle du sol de 5 mètres entre ce point-là qui est le plus haut et ce point-là qui est le plus bas actuellement. En fait, les sondages que j'ai faits ici montrent qu'ils sont partis à 1 mètre au-dessus du niveau du sol pour construire cette tour et qu'ils sont arrivés ici à 5 mètres au-dessus du niveau extérieur. Donc ils avaient un problème de remblais. Et ils ont tout simplement utilisé les remblais des fossés qu'ils ont fait monter par une ouverture qui était dans cette section de courtine, avec derrière une tour avec un engin de levage. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils régalaient la terre des fossés à l'intérieur pour exaucer l'assiette du donjon. Et on le voit, on en a la preuve, parce que les trois portes d'entrée ici, là et là, sont au-dessus du niveau du sol à l'extérieur. Ici, 1 mètre au-dessus du sol, là, 4 mètres, là, à peu près 2,50 mètres. Et le donjon lui-même, qui est antérieur et qui n'avait pas été conçu de cette manière, est plus bas. Quand on est dans le château de Vincennes, ici, dans l'allée centrale, il faut descendre 1,50 m pour aller dans le donjon qui, lui, a été construit à partir de la pente naturelle et qui, donc, est un peu plus bas que le sol de départ ici. Donc, nous avons un système extrêmement intelligent d'utilisation des remblais. Il y avait 2,7 hectares de remblais, de fossés, qui étaient creusés à 15 mètres de profondeur, 400 mm cubes. Donc, ce n'était pas rien à évacuer. Ils ont eu trop de terre, naturellement, pour l'intérieur. Et ils l'ont utilisé en la disposant à l'extérieur de ce côté, de manière à pouvoir sortir, puisqu'ici, la porte d'entrée était à 4 mètres au-dessus du sol extérieur. Donc j'ai fait tous les calculs, et en fait, ça colle. On a l'indication de l'utilisation de... Alors, je n'entre pas dans les détails, mais il y a toute une série d'observations extrêmement intéressantes sur la qualité du piquetage et du projet architectural. Alors voici les marques lapidaires. Nous avons des marques lapidaires uniquement sur l'enceinte du château. Sur l'enceinte du donjon, les marques lapidaires sont simplement un trait vertical au milieu des pierres. Nous avons au total 750 marques lapidaires différentes. Il n'y a aucune corrélation entre les marques lapidaires et le calcaire. Par contre, il y a une corrélation entre les marques lapidaires et, en général, des dispositions dans les courtines que vous avez là, horizontales. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais en fait, on comprend très bien pourquoi. La construction est normée. C'est-à-dire que chaque année, en moyenne arithmétique, ils ont construit une section de courtine et une tour de 40 mètres de hauteur et le fossé qui était devant, en moyenne arithmétique, à chaque fois. Or, chaque section de courtine est normée, elle fait à peu près entre 69 et 71 mètres actuellement, distance aux distances mètres, pour des raisons qui sont liées à des problèmes de trigonométrie, parce que les fossés actuels qui sont horizontaux étaient comblés à la fin du 19e siècle, au Moyen-Âge ils étaient plus profonds et en pente. Et donc en fait on a refait le calcul en trigonométrie, ils avaient espacé régulièrement les tours, mais ce n'est plus visible actuellement, il y a 2 mètres de distance. Par contre, dans une section de 70 mètres de courtine entre deux tours, il y a autant de blocs en parement que dans une tour en élévation, 5000 blocs. Et donc en fait, quand ils construisaient une section de courtine, on a 90 000 blocs mesurés, ils utilisaient des pierres qui font 26 cm à 36 cm de hauteur. Jamais en dessous, jamais au-dessus. Quand ils commençaient une section de courtine, les pierres font en moyenne 80 cm. Quand ils commençaient une section de courtine de 70 mètres, ils avaient besoin de 90 blocs. Il fallait que les 90 blocs fassent ou 26, ou 32, ou 36. 5 par voiture, ce sont des blocs très lourds. Il fallait donc gérer le chantier de telle manière que les maçons aient leurs 90 blocs de 26 cm pour faire la courtine. Et les marques lapidaires indiquent cela. Par contre, elles indiquent aussi l'utilisation de pierres de qualité particulière avec des taux de résistance à l'écrasement spécifiques sur les contreforts. Vous voyez, les marques lapidaires sont ici, représentées par des symboles. Vous voyez que sur la tour du village à l'entrée, nous avons une répartition verticale de marques lapidaires identiques qui correspondent systématiquement aux contreforts. De même que nous avons des, c'est pas sur ce dessin, nous avons des marques lapidaires spécifiques pour la base talutée de la tour, qui sont des pierres qui supportent un très grand poids et qui sont des calcaires particuliers qui ont un très fort taux de résistance à l'écrasement, et c'est indiqué par les marques lapidaires. Donc en fait, les marques lapidaires sont une forme de gestion de la pierre qui est extrêmement importante. Alors je vais en venir maintenant au décor sculpté que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que Vincennes est sans doute, à son époque, quand le donjon a été construit, entre 1361 et 1370, un des édifices les plus riches en sculpture, intérieure et extérieure. Cette sculpture est assez sophistiquée, elle est essentiellement religieuse, et ça fait de Vincennes, du donjon, un édifice tout à fait particulier et qui mérite d'être étudié. Il y a eu d'ailleurs une thèse sur cette intéressante question, faite par une étudiante dont nous avons dirigé la thèse, Anne Prach et moi, qui était malheureusement une thèse en allemand, mais que vous avez en référence dans la bibliographie que je vous ai donnée. Donc voici le décor sculpté, une partie du décor sculpté du donjon. Nous savons qu'à l'entrée du Châtelet, le Châtelet, c'est l'entrée flanquée de deux tours, ouvertes vers l'est, vers l'intérieur de la cour du château, qu'il fallait emprunter pour entrer voir le roi. Nous savons par une description de 1377, qui est un rouleau en latin, une déposition du curé de Montreuil. Montreuil est la paroisse sur laquelle se trouve le château. Il était en conflit avec le chapelain du roi de Vincennes, donc il dépose. C'est un rouleau qui fait 20 mètres de long, dans lequel le curé de Montreuil décrit le monument. Et il dit, et j'ai d'autres sources qui indiquent la même chose, ici il y avait une statue de Saint-Christophe, là le roi, la reine, les armes de France avec des fleurs de lys sans nombre, deux dauphins, puisque Charles V est le premier dauphin de France, la fenêtre qui éclaire le cabinet de travail du roi, une console, sur la console, la Trinité. Symboliquement, Charles V travaille sous son horloge et sa cloche qui scellent les heures canoniales et sous la protection de la Trinité. En face, le Châtelet, la Sainte Chapelle est dédiée à la Vierge Marie et à la Trinité, et sur la voussure centrale, il y a une représentation de la Trinité que le roi pouvait voir depuis sa fenêtre, la fenêtre de son cabinet de travail. Et dans son cabinet de travail du deuxième étage du donjon, la clé porte une Trinité. Et dans les angles, quatre consoles avec les quatre évangélistes. Donc, vous voyez, décor religieux tout à fait exceptionnel dans un édifice royal. Mais ce n'est pas tout. Dans le donjon proprement dit, à l'extérieur, les fenêtres sont encadrées par des culots que vous avez ici, et qu'on a pu étudier grâce à l'échafaudage, parce qu'ils se trouvent à 20 et 30 mètres de hauteur, au niveau du deuxième et du troisième étage. Alors, en général, ce sont des anges musiciens qui jouent de tout l'instrumentum qu'on peut trouver au Moyen-Âge, quelques prophètes, et il y a un tailleur de pierre, comme souvent les sculpteurs le faisaient, mais qui est très haut, pas visible, comme d'ailleurs tout le reste, les armes royales. Alors voici le développé du donjon, et ici la localisation de ces culots. Culots de cet étage, premier, qui sont faites qui ne sont pas décorées, ce sont des réservations. Culot du niveau de la chambre du roi qui est ici, culot du troisième étage et culot qui encadre cette fenêtre du quatrième étage. Le quatrième étage est seulement a des culots sculptés seulement du côté sud. Voici un des culots du quatrième étage. Vous voyez cet ange qui joue de la musique. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les anges musiciens sont associés au Moyen-Âge aux litanies de la Vierge. Vous avez au chevet de la cathédrale du Mans, découvert il y a une dizaine d'années, un décor peint qui était sous du plâtre dans la chapelle de la Vierge, qui avait été fait pour Gauthier de Beigneux, évêque du Mans, devenu archevêque de Sens, qui était un des conseillers de Charles V. Ce décor de la chapelle de la Vierge au Mans est postérieur de 10 ans à celui-ci. Et Gauthier de Beigneux avait fait aménager la chapelle de la Vierge comme chapelle funéraire. Il est mort à Sens, finalement. Donc en fait, ce que veut dire ce décor, c'est que les anges chantent les litanies au-dessus de la chambre du roi, et le roi y répond. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de décor de culot sculpté en dessous de la chambre du roi. Et ce qui est très intéressant, c'est que les culots qui sont là, ils sont à 20 mètres de hauteur, et ceux-là à 30 mètres. Donc c'est clair qu'ils ne sont pas faits pour être vus. Alors les monuments historiques ont pris une décision qu'on peut contester. Ils ont déposé tous les culots, ils ont remplacé par des copies en pierre reconstituée. Donc si vous allez à Vincennes, certains de ces culots sont présentés dans le donjon et les autres sont stockés dans les sous-sols des casemates. Mais c'est un ensemble extraordinaire. On a 33 culots, hein, dont 25 avec des instruments de musique. Alors, autre exemple de l'étude architecturale, j'ai mis une découverte entre guillemets, parce que ces lambris que vous allez voir sont des lambris qui étaient visibles de toute antiquité, si j'ose dire, puisqu'ils sont d'origine. Et aucun auteur qui a écrit sur Vincennes, jamais, ne les a même mentionnés. Ils étaient considérés implicitement comme ayant été faits à l'époque où le donjon, dans l'Ancien Régime, servait de prison. Ce qui est absurde, puisqu'ils tapissent, vous voyez, la voûte, à 8 mètres de hauteur, sous clé, et que donc, pour les mettre en place, il aurait fallu échafauder. À une époque où la pièce centrale servait de promenoir aux prisonniers, et était obscure, puisque les fenêtres du donjon, dans l'Ancien Régime, avaient été murées. Donc voici ce décor de lambris, au premier étage, dans la salle du conseil, et le voici ici, dans la tourelle sud-ouest, au deuxième étage. Alors j'ai prélevé, avec l'autorisation des monuments historiques, une partie de ces lambris, en particulier vous voyez, dans ce voûtin. Quand on a prélevé les lambris, on a mis en évidence tout le système de mise en place des crochets de fer qui tiennent les tasseaux sur lesquels sont cloués les lambris. Alors ça ne se voit pas très bien sur ce document qui n'est pas très bon, mais on a les traces de tracés au charbon de bois et au fil pour l'alignement des crochets que vous avez là. On a même les traces de coups de marteau qui ont touché la pierre quand ils ont fait passer les tasseaux derrière les crochets. Vous avez ici le réseau de tasseaux, et là-dessus, ils ont cloué les lambris que vous avez là. Alors on a calpiné, c'est-à-dire dessiné pierre à pierre, toutes les murs intérieurs du premier étage, deuxième étage, troisième étage, ce qui nous a permis de mettre en évidence, parce que les lambris ont été arrachés, et les traces de crochets aussi, mais on peut les retrouver dans le calpinage au dixième, ce qui nous a permis de mettre en évidence que la pièce du premier étage et du deuxième étage était intégralement lambrissée, voûte et mur, au Moyen-Âge, alors que la pièce du troisième ne l'était pas. Je sais par les sources écrites que le lambrissage de ce genre est réservé aux chambres des grands seigneurs et de la haute aristocratie française et anglaise notamment. Les sources anglaises donnent beaucoup d'indications là-dessus. Les chambres de Philippe le Hardy à Paris ou à Dijon et celles de sa femme aussi, sa chapelle privée, la chartreuse de Champmolle, étaient lambrissées de cette manière. Et en fait, ce bois de chêne, nous avons pu, grâce au laboratoire de chronoécologie de l'Université de Besançon, qui a travaillé avec en fait, l'Université de Hambourg, nous avons pu l'identifier. Il vient de la Baltique. Il vient probablement soit de Riga, en Lettonie, soit de Gdansk, c'est-à-dire des grandes forêts de chênes de l'arrière-pays. Ce sont des chênes à croissance lente qui avaient 250 ans à l'abattage et qui ont la caractéristique de très peu se déformer quand ils sèchent. Donc ils ont été utilisés beaucoup pour les panneaux peints au Moyen-Âge ou pour d'autres fonctions très particulières, c'est-à-dire les grands panneaux sur lesquels on dessinait à l'échelle 1 les formes architecturales, on le sait par les comptes. Dans les sources écrites, ce bois, au XIVe siècle, alors il était utilisé notamment ici par Jean de Berry pour le palais comtal, pour la tour Montbergeon, et pour le bateau qu'il a fait sur le Clain, et pour son château de Poitiers. Et dans les comptes de Jean de Berry, on voit que son maître d'œuvre, qu'il a fait venir de Paris, que j'ai retrouvé, il appartient à une famille qui a fait aussi des lambris pour le roi au Louvre, la famille des Siras, les sources ici à Poitiers le montrent. C'est un homme de cette famille que Berry a fait venir spécialement. Et les lambris utilisés à Vincennes, on est allé les chercher à Niort, port de mer, et surtout à La Rochelle. Ces lambris viennent de la Baltique. Je viens de faire un article qui va paraître dans Francia, la revue de l'Institut historique allemand sur les sources écrites. Et là, vous avez les coefficients de corrélation qui ont été faits il y a quelques années, à une époque où nous n'avions pas encore, enfin les Allemands n'avaient pas encore, et les Polonais non plus n'avaient pas commencé à travailler sur les pays baltes. Plus le point rouge est gros, plus la corrélation statistique avec les lambris de Vincennes est bonne. Et vous voyez très bien que les meilleures corrélations, ce sont deux épaves dans la Baltique, dont une dans la baie de Gdansk et une dans l'arrière-pays de Gdansk. Mais maintenant, on n'a pas mis la carte à jour, maintenant nous avons d'autres éléments qui montrent impeccable, ce sont bien des chaînes de la Baltique. Et dans les sources écrites du Moyen-Âge, on les appelle des bois d'Iland, des bords d'Iland, D'Isle-Lande. Parfois, les comptables ne comprennent pas, donc ils disent d'Hollande, parce que la Hollande, ça leur dit quelque chose, l'Islande, ils ne la comprennent pas. Alors, j'ai compris pourquoi Islande. C'est tout simplement parce que la Lettonie s'appelle au Moyen-Âge, depuis 1144, la Livonie, et en allemand, ça se dit Liefland. Et Liefland, ce sont des bois qui ont été apportés par les marchands hanséates, qui parlaient le bas-allemand, et en bas-allemand, les brugeois qui redistribuaient ensuite ces bois en Europe occidentale disaient qu'il s'agissait de bords d'Ifland et le V allemand est tombé. Et l'Iland, eh bien, c'est tout simplement les bords des bois de Lettonie. Alors, nous avons aussi dans la chambre du roi mis en évidence une chose qui n'avait jamais été citée. Vous voyez que ici sur ce cliché d'avant la restauration, vous avez le chapiteau que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le chapiteau polychrome dont j'ai retrouvé deux fragments dans la fouille, qui avait été protégé en 1930 par un cerclage métallique et par ce plâtre, ce qui explique l'altération de la polychromie. Et les nervures étaient peintes. Elles étaient considérées aussi comme une fantaisie des prisonniers au XVIIe et XVIIIe siècle, ce qui est absurde. Alors, on a échafaudé, et vous voyez le motif, fleur de lys, en relief, 30 cm, doré la feuille d'or. Les armes royales, fleur de lys dorée sur fond d'azur. Peint à l'huile à cette époque. Donc c'est un décor d'origine de la chambre du roi. La voûte est alambrissée, on a encore les crochets. Et je pense que l'utilisation de peinture à l'huile sur les nervures signifie que très probablement les panneaux étaient peints à l'huile. Donc on est devant un des premiers exemples d'utilisation de la peinture à l'huile pour des lambris. Et je pense que donc cette chambre avait, je sais donc par le relevé qu'elle était intégralement lambrissée. J'ai une description de la chambre en 1461 par les ambassadeurs de Florence qui viennent à Paris pour voir Louis XI qui vient d'être roi, et qui disent que la chambre du roi du donjon est lambrissée et dorée à la feuille d'or. Donc on a le seul exemple du décor peint d'une résidence royale, décor qui n'avait jamais été cité. Alors ceci, plus les lambris, montre qu'il vaut mieux faire attention quand on restaure un monument historique de ce type. Il vaut mieux être extrêmement prudent et faire des études assez poussé. Alors je terminerai par un dernier point qui est le fer. Le fer, depuis l'article de Jean-Louis Taupin et son étude de la cathédrale de Meaux, on s'est aperçu que le fer était très utilisé dans l'architecture médiévale. Mais dans le cas de Vincennes, le fer, qui était pourtant en partie visible, n'avait jamais été étudié et on ne se rendait pas compte de son importance. Alors dans le cas de Vincennes, voici ce qu'on pouvait voir au début du chantier, en 1999. C'est un document de l'architecte en chef, Dominique Moufle, qui montre le fer qui était visible. Donc on le voyait, vous voyez, sur les linteaux des fenêtres, et on le voyait ici, parce que j'avais, quelques années avant, loué une nacelle auto-élévatrice de 60 mètres de hauteur. J'avais fait une couverture photographique, on avait déplacé la nacelle tout autour pour faire une couverture photographique complète, et on avait mis en évidence des anomalies que vous allez voir sur la diapositive suivante, qui était en fait un cerclage du donjon. Certaines diapositives sont un peu lourdes, en tout cas elles avancent lentement. Alors je peux vous commenter. Voilà. Ça, c'est une photo en noir et blanc que j'ai faite en 1996. Vous voyez ici, par exemple, les pierres sont éclatées. Là, on voit quelque chose. Ici aussi et là aussi. C'est la 104e assise, en partant du bas. Ça, c'est la face ouest du donjon. Vous allez voir l'autre face du donjon, dès que la diapositive aura reculé. Voilà, ça c'est la face est du donjon. Vous voyez, 104e assise, même chose, sortie métallique ici, en plein au milieu de la section droite, éclatement de la pierre, autre sortie métallique. En fait, ces éléments, c'est un cerclage complet, qu'on a donc mis en évidence avant l'échafaudage et qu'on a vérifié lors de la restauration. Alors voici un autre exemple de vérification d'utilisation du fer lors de la restauration. La colonne centrale du donjon a été démontée lors de la restauration. Alors inutile de vous dire que c'est une opération un peu particulière, puisqu'au premier étage, la colonne supporte 400 tonnes. Elle a été reprise en sous-œuvre, montée au vérin, démontée, renforcée, remise en place. Et quand ils ont démonté, quand l'entreprise a démonté, j'étais sur la terrasse en train de travailler, il y a eu un problème de flambement léger et le chapiteau du premier étage a éclaté. Il a éclaté selon le diamètre. Parfait. Et on a vu ces deux magnifiques goujons qui, en fait, fixaient le chapiteau dans le tas de charge et dans le sous-chapiteau. Et c'est une photo que j'ai faite à toute vitesse. Les ouvriers m'ont prévenu, je suis descendu, j'ai fait la photo parce que là, ils avaient un léger problème. Vous voyez, l'engin qui est ici, qui leur servait à scier pour enlever le chapiteau, était bloqué et il a fallu remonter un petit peu les vérins pour dégager la scie et faire repartir le chantier. Mais bon, alors voici par exemple le sol du quatrième étage. Donc j'avais observé au niveau du sol du quatrième étage cette sortie métallique et cet éclatement. J'ai sondé en croix dans les quatre côtés du sol et on a trouvé des arcs de contrebutement de la colonne centrale. Arc médian, arc diagonaux qui tiennent la colonne et sur les arcs médians, des barres de fer. Ici, cette barre de fer passe sous la colonne engagée qui est là, ici, là et là. Et en fait, ce que vous avez ici, c'est la sortie de ces tirants à l'extérieur du monument. En fait, ils ont installé des barres de fer qui mesurent exactement une toise, 6 pieds, une de là à là, une autre de là à là, deux là et là, c'est-à-dire 4 toises ici, 14 là, et ensuite ils ont réglé le système en le mettant en tension sous la colonne centrale par des barres de fer qui ont été coupées à la dimension exacte pour mettre les quatre pièces de deux toises des extrémités en tension. Alors ces tirants ne sont pas en réelle tension. Ils se mettent en tension si le monument bouge. Donc c'est un système d'équilibrage. Et en plus, pour achever le système, ils ont mis en place sur les sorties des tirants un cerclage complet que vous allez voir sur les diapositives suivantes. J'ai presque fini. Voici un autre étage, un autre côté du même étage, et vous avez ici le cerclage. Ça, c'est la sortie du tirant médian du quatrième étage. Ça, c'est sa tête, avec ici les refouillements de l'engin qui va permettre de faire ce magnifique refouillement que vous avez là, qui était nécessaire pour la restauration. C'est-à-dire qu'on a carrément démonté trois assises pour pouvoir renforcer le monument. Et vous avez là, vu par en dessous, le cerclage, et là, le tirant médian, avec l'agrafe qui met le tirant médian en tension. Et là, les barres de fer du cerclage de périphérie. Inutile de vous dire que c'est rarissime. Observez le fer de cette manière, le prélever. L'architecte en chef a maintenu le système de ferraillage du maître d'œuvre. Il l'a remplacé par des aciers inoxydables parce qu'à certains endroits, il était abîmé depuis le XVIIIe siècle. Le cerclage avait été coupé. Il l'a remplacé. Et donc j'ai prélevé 150 éléments métalliques d'origine, ce qui me permet de faire des calculs statistiques sur la normalisation des sections et surtout de faire des analyses très poussées qui sont faites par le centre d'études atomiques de Gips-sur-Yvette sur ce fer. Alors vous avez ici en rouge toutes les barres de fer au niveau du quatrième étage sur la tourelle des latrines. C'est un plan sous AutoCAD de localisation du fer. Et vous allez avoir les mêmes choses. Je vais terminer par des photographies qui parlent d'elles-mêmes, qui n'ont pas besoin d'être commentées, sur le fer dans la terrasse. Donc voici la terrasse du donjon. Donc on a travaillé dans l'hiver 2003-2004, pendant tout l'hiver, sous l'échafaudage, vous voyez, entièrement avec un bardage métallique, une couverture plastique. On a entièrement démonté les dalles de l'époque Napoléon Ier, enlever les remblais qui étaient en dessous, qui surchargeaient, démonter les voûtins d'ancien régime qui étaient entre les arcs. Il y avait un système d'arcs médiévaux qui, en fait, au Moyen-Âge, était couvert de charpentes et sur les charpentes, du plomb. Donc l'architecte en chef a restitué ce système pour alléger. Et vous avez là, par exemple, les tirants métalliques qui ont été coupés dans l'ancien régime et qui, en fait, étaient installés sur les médianes avec un cercle au centre pour les mettre en tension pratiquement tout ce cerclage de la partie centrale du donjon a disparu, mais il existe encore sur les tourelles d'angle. Vous voyez ici les différentes étapes, la tourelle avant démontage, les barres de fer avec les voûtins d'Ancien Régime, les voûtins enlevés et les barres de fer qui apparaissent avec tout le système de mise en tension des fers des maîtres d'œuvre médiévaux. Alors ici, vous voyez par exemple, dans l'Ancien Régime, on avait démonté une des barres de fer, il y en a 8. Elles étaient mises en tension, vous voyez un crochet, un anneau soudé au centre et une deuxième barre de fer qui s'engage dans un cerclage de la tourelle et qui vient ensuite se prolonger, qui passe sous le mur. Vous voyez ici, vous avez le centre que vous avez là. Là, ces éléments. Et là, vous avez la sortie en prolongement de cette partie oblique qui passe sous le mur et avec un cerclage qui entoure la tourelle. Il y a 3 cerclages au niveau de la partie supérieure du donjon pour des raisons de stabilité du donjon. Ils ont ferraillé à mort. Il y a 800 mètres de barre de fer dans la terrasse du donjon. Donc c'est un système d'une sophistication extrême. Il y a au total 15 tonnes de fer. Alors j'ai terminé sur cette diapositive. Voilà le fer en rouge que nous avons relevé. Alors il n'en existe qu'une partie parce que quand dans l'Ancien Régime on a refait la terrasse, ils ont enlevé une partie du fer. Donc on peut le reconstituer parce qu'il est installé, il est mis en place selon une logique. Mais c'est la première fois qu'on met en évidence un système aussi sophistiqué. Et l'intérêt d'un chantier de restauration, c'est que tout cela était modélisé. L'architecte en chef avait besoin, Dominique Moufle avait besoin pour déposer son projet, de connaître la fonction de ces barres de fer. Donc on a mis sur le travail des bureaux d'études spécialisés, des bureaux d'ingénierie, qui ont fait tous les calculs de retombées de charge et la fonction du fer. Et on est arrivé à la conclusion, enfin ils sont arrivés à la conclusion, que sans le fer, le donjon ne tenait pas. 50 mètres de hauteur, voûté, avec le poids des voûtes qui jouent à l'écartement au tiers, enfin, etc., il ne tenait pas. Et dans un édifice de ce type, qu'on n'avait jamais étudié d'une manière technique, sophistiquée et approfondie, avec des ingénieurs, l'archéologie a montré, et parce qu'on a bénéficié des moyens lourds financièrement hein, du chantier de restauration, mais aussi parce qu'on était là. Parce que je peux vous dire que si on n'avait pas été là, ces observations n'auraient pas été faites d'une manière systématique. Elles auraient été en partie perdues et pas utilisées de manière systématique. Et on a pu mettre en évidence ceci, l'utilisation de ce fer massivement dans un édifice où on ne savait pas qu'il existait. Alors ça nous pose un problème, d'où vient cette tradition? Où Raymond Dutemple, qui est le maître d'œuvre de cet édifice, a-t-il trouvé cela? Bon, je pense qu'il l'a en partie trouvé dans une tradition, en partie inventé, et mis au point dans un édifice hors norme. Mais voilà. Alors je terminerai là-dessus. J'ai un peu outrepassé mon temps de 9 minutes, mais vous m'en excuserez. J'avais un peu présumé du nombre de diapositives. Je voudrais terminer en disant qu'il faut bien comprendre un certain nombre de choses. Une opération comme Vincennes n'est, à mon avis, que très difficilement reproductible, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il faudrait trouver un édifice qui mérite cette étude. Et à part les grandes cathédrales qui se situent dans un autre registre, le Palais des Papes d'Avignon, j'en connais peu, qui posent des problèmes aussi complexes qu'un édifice comme Vincennes. Il faut aussi avoir les moyens de le faire. Et les moyens, c'est aussi une circonstance. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, reprenant l'expression d'André Breton et des surréalistes, qu'il s'agissait d'un hasard objectif. C'est-à-dire qu'il fallait être au bon endroit, au bon moment, pour faire le bon travail. Et que ça prouve d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment de hasard, hein, d'où l'expression. Mais ce n'était pas évident. Si la restauration n'avait pas été faite à ce moment-là, nous n'aurions pas pu faire ceci. Or, quand j'ai commencé à travailler à Vincennes en 92, il n'était pas prévu de restaurer le donjon. Il était prévu de faire des travaux dans le sol de la cour, mais pas de restaurer le donjon. On s'est aperçu des problèmes du donjon en 95. Donc, ce n'était pas évident. On ne savait pas qu'on allait restaurer le donjon en 92, quand j'ai commencé à travailler à Vincennes. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ceci illustre un point. Je voudrais terminer en illustrant un point. C'est que une partie des opérations de Vincennes relève de l'archéologie préventive. C'est-à-dire que on a fait des tranchées pour les réseaux d'eau, on a fait des observations dans le donjon qui n'étaient pas prévues, etc. Encore une fois, il faut bien être conscient que l'exploitation de problèmes aussi sophistiqués, aussi variés, aussi complexes, n'est possible que dans des conditions exceptionnelles. Il faut une équipe et il faut une grande culture générale. Et j'insisterai sur ce point. On ne peut pas faire d'études. Je ne crois pas à l'archéologie du bâti. L'archéologie du bâti, je pense que c'est une expression de spécialistes du bâti qui connaissent mal le bâti. l'archéologie du bâti, Viollet-le-Duc, Quichera, Paul Goute, l'architecte du Mont-Saint-Michel, en faisait déjà à la fin du 19e siècle. Il y a des monuments qui méritent plus ou moins des études compliquées. L'archéologie du bâti, d'accord, quand il s'agit de petites maisons rurales ou de maisons urbaines sur lesquelles on n'a pas de source écrite, ou à la limite de résidences fortifiées, de petits seigneurs ou de petites églises rurales sur lesquelles on n'a pas de texte. Là, ce que l'on fait à Vincennes, ce n'est pas de l'archéologie du bâti. C'est une étude historique sur un monument complexe qui utilise toutes les sources utilisables. Il n'y a pas de problème de source écrite. Hein. Contrairement, quand je lis des rapports de fouilles ou des publications archéologiques, je rencontre très souvent des phrases du genre « les sources écrites, c'est long, c'est difficile à exploiter, etc. » Ce n'est pas vrai. Exploiter des sources écrites pour un donjon comme Vincennes, ça m'a pris quelques années à temps partiel. La fouille, ça suppose 10-20 personnes pendant des années. L'étude des sources écrites, c'est moins coûteux et beaucoup plus rapide que les fouilles archéologiques. Simplement, ça demande un apprentissage préalable. Ça demande une culture. Et le problème qui nous est posé en archéologie du Moyen-Âge, ce n'est pas celui, contrairement à ce que disent beaucoup, des sources écrites. Quand on étudie un monument, il faut étudier tous les moyens, utiliser tous les moyens pour le connaître. L'histoire de l'art, l'archéologie, les fouilles, le bâti, l'analyse de la pierre, les sources écrites, s'il y en a. Le vrai problème n'est pas celui des sources écrites, c'est celui de la culture historique des gens qui font de l'archéologie, et notamment du bâti. On ne peut étudier des monuments comme cela que dans une perspective historique. Et c'est sur ça que je terminerai. Des monuments de ce genre sont des monuments exceptionnels qui supposent... Alors, je dirais juste une chose pour terminer. Au total, hein, l'opération sur Vincennes a été payée en partie par le ministère de la Défense, notamment la galerie technique, moitié-moitié avec la culture. Le donjon, intégralement par la culture, puisqu'il est affecté au ministère de la Culture et classé monument historique. Au total, c'est uniquement de l'archéologie préventive. Donc, on a appliqué la loi de 2000, revue en 2003. Et ça a coûté 2 millions d'euros. Non compris les salaires des personnels comme le mien. Mais 2 millions d'euros qui sont allés presque essentiellement dans la caisse de l'INRAP, puisque je fouille avec des personnels de l'INRAP. Mais bon, c'est rien. Hein. La restauration du donjon a coûté des dizaines de millions d'euros.
Merci beaucoup, monsieur, pour cette passionnante conférence. Et les sources écrites, on y est très sensible ici, hein, dans le cadre de l'histoire des sciences et des techniques. Donc, c'était vraiment très intéressant. Maintenant, il ne reste plus qu'à fretter un bus pour aller à Vincennes et vous rencontrer.
Avec plaisir.
Voilà. Donc, vraiment, merci infiniment pour cette conférence très, très riche. Et aussi pour les étudiants bon, qui ont toujours des leçons, en effet, autant au CESCM que chez nous lors des conférences. Grâce à la qualité de nos intervenants et des leçons d'histoire et de méthodologie. Je trouve ça important aussi.
J'ai indiqué la bibliographie, mais si ça vous intéresse.
Je passe.
On vient de. Il est vide. Le CNRS vient de réaliser un DVD de 2 heures sur la restauration du donjon qui est en vente. D'accord. Vous avez les références dans la bibliographie. C'est la première fois qu'on fait un DVD sur une restauration.
D'accord.
Le département d'image du CNRS a suivi pendant 4 ans la restauration et a tout filmé, toutes les phases.
D'accord. Je pense qu'il va y avoir des questions. Attendez, il faut s'enregistrer.
Oui, bonjour. Je voulais juste poser une petite question concernant le manoir capétien. Donc, quand on va à Vincennes et que l'on voit, bon, à partir de, je sais pas, 2002, même avant, on a l'impression que les fouilles ont été laissées à l'abandon. Bon, il y a l'herbe, il y a les bâches qui s'envolent, etc. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas fait choix ou que vous n'ayez pas pu mettre en valeur tout le travail de fouille que vous avez réalisé, soit par des parois vitrées, bon, avec les carrelages, en fait, tout ce qu'il y avait. Voilà.
C'est très simple. Hein. Les niveaux archéologiques du manoir, c'est-à-dire les sols carrelés notamment, sont à 1,50 m. Donc 1,50 m, c'est pas assez profond pour qu'on fasse une dalle. Si on fait une dalle pour que le public visite, elle sera au-dessus du niveau du sol. Donc dans ce cas-là, on ne peut faire une dalle que si on construit un bâtiment au-dessus. Donc on n'avait pas le choix. Alors on aurait pu décider de laisser les structures bâties à l'air. À ce moment-là, il fallait les consolider pour les mettre à l'abri du gel. Bon, et en plus, connaissant, si je peux dire, la qualité de l'entretien des monuments historiques, je suis hébergé sur place. Dans un bâtiment qui est un bâtiment militaire, où il y a des personnalités importantes qui viennent, et des prises d'armes, et des cérémonies importantes. J'étais convaincu que si on laissait le monument avec la fouille visible, il serait envahi par les feuilles mortes, la végétation parasitaire et les papiers. et qui ne serait pas entretenu. Donc j'ai préféré qu'on ne garde que la fontaine, qui en fait marque le centre de la cour du manoir, et même ça, il est très difficile de l'entretenir. Il a fallu 3 ans pour que j'obtienne des grilles pour éviter que les gamins ne tombent dans la fontaine. 3 ans hein, pour le mettre en sûreté. Et même ça, c'est très difficile à entretenir. Si vous êtes allé, il y a sans arrêt des végétations qui poussent, etc. Donc, je ne voulais pas qu'on puisse m'accuser d'avoir fait une fouille qui dégueulassait le monument. Voilà. Et donc, le monument est en place, on l'a prélevé, il est sous du plastique, le site est entièrement recouvert de sable. Si un jour, dans 10 ans, dans 50 ans, dans un siècle, on veut le dégager, il n'y aura aucun problème. Il y a des caves, j'ai trouvé des réseaux de caves, on a fait des accès, on les a assainis avec des puisards, on a mis l'électricité, mais elles sont fermées. C'est le choix que j'ai défendu. Et je suis convaincu que j'ai fait le bon choix.
Est-ce qu'il y a d'autres monuments où le rôle des armatures métalliques est aussi important ?
Non, parce que, encore une fois, on s'est aperçu du rôle des armatures métalliques que parce qu'on a travaillé. On a fait des trous, on a démonté les parois. Je me souviens, quand j'ai fait le premier sondage dans le sol, c'était au 3e étage. J'ai trouvé les arcs que je vous ai montrés, de contrevêtement de la colonne centrale, et les barres de fer dessus. J'ai demandé à un spécialiste de l'architecture fortifiée, Jean Mesqui, hein, qui est un ami de longue date, de venir. Jean Mesqui, pour ceux d'entre vous qui le connaissent, est arrivé un jour en costume cravate. Il a vu ça, il a dit « c'est pas possible, ça peut pas être du Moyen-Âge ». Il est descendu dans le trou. Et il a bien vu que la stratigraphie, si vous voulez, montrait bien que ce n'était pas des barres de fer qui avaient été rajoutées. Elles étaient d'origine. Le comblement de la voûte le montrait très bien. Bon. Jean Mesqui est ingénieur des ponts. Et c'est un problème qui ne nous apparaissait pas. J'ai fait venir comme ça un certain nombre de spécialistes quand on a trouvé ces barres de fer, Taupin et d'autres. Et ça bouleversait les... On ne s'imaginait pas. Donc je pense qu'il doit y avoir d'autres monuments de ce type, d'autres donjons, Tonquédec ou n'importe quoi, comparables, qui sont ferraillés de la même manière, et on ne s'en rend pas compte. Il faut sonder les murs, sonder les sols, ou travailler avec des prospections géophysiques.
Là, il y a quand même des traces d'émergence sur les façades,
bien sûr. Si j'ai bien compris. Non, bien sûr. En fait, on a mis en évidence la présence du fer dès 1995 par les relevés photos que j'ai fait à la nacelle auto-élévatrice. Mais on les a mis en évidence parce que j'avais lu les articles de Taupin et que j'avais compris ce problème et que j'en ai discuté avec Taupin. Et qu'on avait donc, si vous voulez, comme je vous l'ai montré, la 104e assise avec les barres de fer. Donc on a compris. Et à ce moment-là, on a commencé à faire des sondages dans les sols et on a vérifié ces indications lors de la restauration. Mais avant... Le relevé photographique externe à la nacelle, on n'avait pas vu se faire. Il est à grande hauteur. Hein.
Oui, je voulais juste, c'est pas une question, c'était pour répondre à monsieur. Il y a des barres de fer dans les cathédrales dès le début du XIIIe siècle. Voilà, c'est connu. Hein, c'est... Oui, d'origine. Et notamment dans la cathédrale de Bourges, c'est paradoxalement dans la première moitié, c'est-à-dire dans la partie la plus ancienne, qu'on trouve des barres longitudinales au-dessus et dans le sol des triforiums. Il y a d'autre part, et ça a été dessiné par Viollet-le-Duc, donc c'est connu depuis longtemps, des barres métalliques qui contiennent
les... Saint-Nazaire de Carcassonne.
Oui, et puis les ogives de la Sainte-Chapelle de Paris, etc. Donc, bon, mais il est vrai que beaucoup de restaurateurs ont commencé par les enlever en imaginant que c'était des rajouts postérieurs. Maintenant, on est dans des circonstances différentes, hein, ce n'est pas une cathédrale, c'est un château, et la proportion de métal est effectivement importante.
Le problème, c'est que, comme le dit Mme Androuschmidt, on sait depuis longtemps que le fer existe dans les cathédrales. Le problème, c'est que la statique d'une cathédrale, ce n'est pas du tout la même chose qu'un édifice de 50 mètres de haut voûté. Là, si vous voulez, ils ont un problème énorme, c'est que la pression au tiers devient de plus en plus importante. Si vous voulez, dans la partie basse, les murs font 10 pieds. Donc il n'y a pas de fer au rez-de-chaussée, au premier étage, et même au deuxième, il n'y a pas de fer. Parce que le poids de l'architecture est tel que la pression oblique des voûtes est annihilée par la poussée verticale du mur. Mais plus vous montez, moins il y a de poids sur les... Bon, ils ne pouvaient pas faire de contrefort, hein. Et donc ils ont ferraillé. Dans une cathédrale, si vous voulez, ils remplacent le fer, ils mettent éventuellement des tirants transversaux. En général, ils font des cerclages à Amiens ou ailleurs. Mais ils ont des contreforts. À Vincennes, dans un donjon, c'est pas possible. Donc il fallait équilibrer le monument, d'où les cerclages et les tirants. Oui.
Excusez-moi, est-ce qu'on connaît la provenance du fer ? Est-ce qu'il s'agit de fer d'Espagne ? Enfin, je pense qu'il y avait... Est-ce qu'on a étudié la provenance du fer ?
Non, mais on ne peut pas étudier la provenance du fer. C'est comme bon, le plomb aussi nous pose un problème. Mais si vous voulez, il y a 15 tonnes de fer. Bon, je travaille avec Philippe Dillmann, qui est au CNRS, qui est un spécialiste de la métallurgie. Hein. Dans un premier temps, on avait pensé que c'était un procédé indirect. Et en fait, pas du tout. Les études que Dillmann a faites montrent que c'est un procédé direct. Or, on se trouve juste au moment du basculement du procédé direct au procédé indirect, hein, c'est-à-dire du bas fourneau au fourneau. Bon. Or, un bas fourneau produit des loupes de quelques dizaines de kilos. Et nos barres de fer sont normalisées à une toise, c'est-à-dire 1,96 m, hein, 6 pieds. Donc elles pèsent lourd. Ce qui veut dire qu'il a fallu non seulement des martinets pour marteler ce fer qui est d'une très bonne qualité, mais il a fallu une forge sur place, et que j'ai retrouvée dans les sources écrites. Parce qu'il fallait ajuster les barres de fer qui arrivaient normalisées à une toise, il fallait les ajuster au monument. Donc c'est un problème assez compliqué. Et compte tenu de la capacité de fourniture de fer d'un bas fourneau à cette époque, il est clair qu'il a fallu un réseau d'approvisionnement très développé. Et à Paris, à cette époque, le fer vient soit de la Basse-Normandie, soit de l'Aube ou de la Bourgogne. Mais à mon avis, ils ont dû mobiliser, si vous voulez, c'est comme le lambris, ils ont utilisé 500 mètres de fût de chêne de 2,5 siècles. Bon, il a fallu envoyer quelqu'un à Bruges, le dire aux Anséates, que les Anséates aillent à Riga, qu'ils commandent le bois et qu'ils l'apportent. C'est une commande qui suppose un réseau international et du temps et des calculs. Il a fallu que le maître d'œuvre calcule exactement ce qu'il voulait. Le plomb, c'est la même chose. À cette époque, le plomb à Paris vient essentiellement de la Cornouaille ou des îles britanniques. Ils ont utilisé 15 tonnes. Bon, 15 tonnes, ça n'existait pas en stock à Paris. Il a fallu les commander. Or, plus vous montez, plus il y a de plomb. Il fallait absolument que le plomb et le fer soient présents en liaison avec le chantier, parce qu'il joue aussi un rôle pour compenser les pressions verticales sur les joints au moment du séchage. Vous avez 150 assises dans le monument. Il faut bien voir qu'un monument comme celui-là se tasse quand le mortier sèche. Et qu'il fallait éviter que le tassement des 150 assises extérieures soit différent du tassement des assises de la colonne centrale, auquel cas on aurait eu un report de charge excessif sur la colonne. Il fallait un équilibrage des... Bon, donc le fer joue en particulier aussi ce rôle d'équilibrage du monument en cours de construction, parce que construire en 7 ans un donjon de cette époque, de cette hauteur, avec 150 assises, c'est un tour de force technique aussi. Non seulement il faut de l'argent, il faut de la main d'œuvre, il faut la pierre, mais il faut être capable de maîtriser un chantier de ce genre. Donc je pense que derrière tout ça, je l'évoquais rapidement, ça signifie une équipe de gestion financière et de gestion des approvisionnements extrêmement pointue. Un chantier de ce genre n'a fonctionné que parce qu'il y avait un homme que j'ai identifié qui s'appelle Philippe Augier, qui est un auteur secrétaire des quatre premiers Valois, qui est un homme dont je n'arrive pas à retrouver la formation universitaire, mais qui avait certainement une formation universitaire, qui est un Sénonais, comme beaucoup d'hommes de l'entourage de Philippe VI et des premiers Valois, et c'est lui qui gérait le chantier. Il était maître à la Chambre des comptes, c'est un homme de finance. Il était spécialiste dans les manipulations monétaires. Et c'est lui qui était chargé de collecter l'argent dans tout le royaume. Le chantier de Vincennes était alimenté par des impositions sur la sénéchaussée de Carcassonne, parmi d'autres. Donc il fallait à Paris des spécialistes des finances royales très, très compétents. Et vous imaginez, juste un exemple, la seule enceinte extérieure du château signifie qu'on apporte tous les jours en moyenne arithmétique pour le seul parement extérieur, 180 blocs de pierre par jour. Des blocs qui font 80 cm, entre 26 et 36 de haut, et en queue, 3 pieds, 90 cm. Vous imaginez ce que ça veut dire comme caravane de voiture, rien que pour le parement extérieur. Donc il y a un parement intérieur, il y a le blocage interne, etc. Donc c'est une gestion qui a été d'une qualité et qui pendant 20 ans a dû mobiliser des hommes extrêmement sophistiqués, extrêmement compétents, d'un très haut niveau de compétence. Sinon le chantier n'était pas possible en si peu de temps. Et c'est ça qui est fascinant dans ce monument. C'est s'imaginer, arriver à reconstituer par l'étude architecturale ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire ce qu'a signifié la mobilisation financière et technique pour arriver à faire ce chantier en si peu de temps.
Question un peu élémentaire, mais enfin la rivière passe à proximité, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle a joué un rôle?
Pardon?
La rivière, la Marne, je crois, passe à proximité.
Elle passe à 3 km. Oui, bah, une partie de la pierre a été apportée par la Marne, parce que vous l'avez peut-être vu rapidement sur la carte. L'essentiel des carrières est au pied de la terrasse du château de Vincennes. Pour ceux d'entre vous qui connaissent l'agglomération parisienne, quand vous sortez de Paris par l'autoroute A4 vers 3, par la porte de Charenton, vous avez la Marne à main droite et une déclivité très forte qui fait 30 mètres de hauteur et la terrasse du château de Vincennes. En fait, les carrières de pierre étaient dans cette déclivité. Donc elles sont à 3 km du donjon, ce qui est la distance moyenne d'un chantier d'approvisionnement en pierre au Moyen-Âge. Mais il y a 30 mètres de dénivellation. Par contre, certaines pierres particulières viennent de l'autre côté de la Marne ou de l'autre côté de la Seine ou viennent de Paris. Et donc là, il fallait les transporter. Alors j'ai des comptes de construction qui montrent, enfin des fragments, qui montrent qu'effectivement, certaines pierres descendaient la Seine ou la Marne, atterrissaient à Charenton, la commune actuelle, et là, bon, on les montait à Vincennes. Mais le rôle de la Marne est secondaire. Oui, bien sûr. Non, mais je vais la résumer.
Bon, est-ce qu'on a une idée de la motivation du roi pour s'engager dans une opération aussi exceptionnelle ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Si vous voulez, j'ai avant tout parlé du donjon, j'ai dit que le donjon était la résidence du souverain. Ça, c'est le premier projet de Charles V. En 69-70, il a terminé son donjon, il arrête le chantier. Et en 72, il construit l'enceinte. Et l'enceinte, si vous voulez, c'est le donjon multiplié par 3 ou 4, au point du volume de pierre, etc. Bon, construit dans le même temps, hein, en 7 ans maximum. Donc pourquoi a-t-il construit cet énorme château ? Le donjon, on comprend, il avait besoin d'être à l'abri pendant la guerre de Cent Ans, une période difficile, la révolte d'Étienne Marcel, l'arrivée des Anglais aux portes de Paris, etc. Le château, c'est un acte politique. C'est la manifestation dans la pierre de la naissance de l'État moderne. Vincennes, c'est la capitale de l'État moderne telle qu'elle apparaît à l'époque de Charles V, c'est-à-dire un gouvernement royal par un entourage de techniciens qui peuvent appartenir à sa famille, qui est fondé sur l'impôt permanent. Et Vincennes est le lieu où les hommes qui travaillent avec le roi viennent, c'est-à-dire ils les envoient en mission, ils arrivent à Vincennes, ils font des rapports écrits, bon, ça je le sais par les sources écrites, hein. Ils vont en conseil, ils font leur rapport sur l'état des fortifications en Normandie. En conseil, on prend la décision de renforcer le château de Caen ou le château de Rouen. Les actes sont pris et ces hommes qui travaillent avec le roi sont logés dans les tours. Les tours de l'enceinte sont les résidences des proches du roi. Donc, si vous voulez, c'est Versailles à une autre époque. Et c'est dans la pierre l'état moderne. C'est-à-dire la bureaucratie, le parlement, la chambre des comptes restent au palais de la cité, mais les hommes qui gouvernent sont à Vincennes. Et la Sainte-Chapelle, que le roi crée en 1379, c'est la troisième étape. Première étape, le donjon, présidence du roi. Deuxième étape, l'enceinte, protection du manoir et de tous les bâtiments et résidence des proches. La Sainte-Chapelle, c'est la copie de la Sainte-Chapelle du palais, le même statut canonial, les mêmes reliques de la Passion, pour appeler la protection divine sur la monarchie capétienne. Mais le roi n'avait pas besoin de la Sainte-Chapelle de Vincennes, il avait plein de chapelles et d'oratoires dans son château, son manoir et son donjon. C'est simplement un acte politique et religieux. Donc si vous voulez, Vincennes, c'est un système politique qui a avorté, parce que la folie de Charles VI, puis la querelle des Armagnacs et de Bourguignon font que Charles VII, le jeune Charles VII, le dauphin, va partir dans le Val-de-Loire, les Anglais vont finir par être chassés, mais enfin bon, si vous voulez, le rôle de Vincennes se termine dès la fin du XIVe siècle. Mais ce n'était pas prévu. Si vous voulez, Vincennes, c'est un acte politique, hein, l'enceinte tout au moins. Mais j'en ai pas parlé parce que mon exposé était sur le donjon, essentiellement. C'est vraiment un acte politique. Si vous voulez, c'est l'époque où c'est la notion de capitale. Charles IV, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui était l'oncle de Charles V, hein, crée Prague comme capitale du Saint-Empire romain germanique. Les Teutoniques créent Marienbourg comme capitale de l'ordre, etc., etc. C'est un acte fondateur, si vous voulez, de la monarchie capétienne de Vincennes.
Il n'y a plus de questions. Ah, pardon, je vais vous donner le micro.
Question un peu anecdotique. Quel était le statut de la forêt de Vincennes au moment où a été décidée la construction ?
Le château, le bois de Vincennes, c'est ça ? Le bois de Vincennes appartient à l'évêque de Paris et aux abbayes. Quand on a des textes, c'est-à-dire on n'en a pratiquement pas. Je crois qu'il y en a 3 des textes, d'époque carolingienne ou post-carolingienne. Et d'une manière que j'ignore, il est passé entre les mains des Capétiens, entre Henri Ier, entre le XIe siècle et le début du XIIIe siècle. Les Capétiens, je ne sais pas comment, ont réussi à devenir propriétaires, mais dès 1183, le jeune Philippe Auguste fait clore le bois d'un mur. Et depuis cette date, le bois est interdit au public, il le restera jusqu'à la Révolution. Il fait 900 hectares, protégé par un mur, avec une porte, une conciergerie et une garnison. Oui, bien sûr. C'est un bois qui servait pour la chasse, mais 900 hectares, c'est petit. Donc, d'après les comptes, de temps en temps, ils apportent un cerf ou deux, mais les cerfs ont besoin d'une surface beaucoup plus grande pour vivre. Mais ils élevaient des daims, ils élevaient des chevreuils, des lapins, et ils chassaient aussi en terrain extérieur, c'est-à-dire en garenne. Toutes les communes environnantes étaient en garenne pour la chasse aux lapins, avec l'interdiction de faire des puits, l'interdiction de faire des fossés, l'interdiction de clore, et on chassait dans le bois ou en terrain ouvert. Et ils chassaient aux oiseaux aussi. Ils chassaient aux oiseaux au printemps, chasse typique du printemps avec les femmes. C'est la seule chasse au Moyen-Âge à laquelle participent les femmes, la chasse aux oiseaux. Et Vincennes, de ce point de vue, et Fontainebleau sont les seuls lieux où on pratique la chasse aux oiseaux dans la monarchie capétienne.
Merci beaucoup, Monsieur Chapelot. Merci infiniment. Bonsoir à tous. Je vous dis au 5 février. Merci.
Éviter l'oxydation du fer. Parce que quand le fer s'oxyde, il gonfle et il fait éclater la pierre. C'est pour ça que je l'ai vu.